VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, il est midi en temps, il est midi à Kinshasa et 11h en temps universel. Bonjour à tous. En RDC, le nouveau président Félix Tshisekedi gracie plusieurs centaines de prisonniers politiques et d'opinion, et cela conformément à des promesses électorales. Monsieur Tshisekedi a également suspendu pour, je cite, mégestion et insubordination un membre du gouvernement et quelques responsables d'entreprises publiques. Le point avec Thierry Kabondi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Environ 700 détenus bénéficiant de cette grâce présidentielle sont remis en liberté. Parmi eux, l'opposant Franck Diongo, arrêté en 2016 et condamné à 5 ans de prison pour séquestration de 3 militaires de la Garde républicaine, ainsi que l'activiste des droits de l'homme Firmin Ngambi, condamné à mort en 2010 par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour détention illégale d'armes de guerre et tentative d'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Ils faisaient tous deux partie des deux cas dits emblématiques des prisonniers politiques sur lesquels l'opposition insistait depuis 2016. Un autre opposant, Eugène Diomindongala de la démocratie chrétienne, condamné lui pour viol sur mineur, bénéficiera d'une liberté conditionnelle, probablement ce jeudi 14 mars, après la signature d'un arrêté par le ministre de la Justice, a indiqué Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État, intervenant mercredi soir à la télévision nationale. Dans la même série de décisions, le président Félix Tshisekedi a ordonné la suspension pour mauvaise gestion et ou insubordination de Maître Loumé Adoumalegi, ministre des Affaires foncières du gouvernement sortant, qui est également traduit devant la justice, du président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ainsi que des directeur général et directeur général adjoint de la Société congolaise des transports et ports ex-ONATRA. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le pouvoir en Algérie s'efforce aujourd'hui de convaincre la rue du bien fondé de la prolongation sine die du mandat du président Abdelaziz Bouteflika et de son plan de réforme à la veille d'un vendredi décisif pour le mouvement de contestation populaire. L'Algérie est le théâtre depuis le 22 février de manifestations d'une ampleur inédite depuis 20 ans déclenchées par la décision de M. Bouteflika au pouvoir depuis 1999 et à la santé défaillante de briguer un cinquième mandat. Face à la pression de la rue, le président a annoncé lundi renoncer à se présenter et reporter la présidentielle prévue le 18 avril. Le premier ministre Ahmed Ouya a par ailleurs été remplacé par le ministre de l'Intérieur Noureddine Bedoui. Le nouveau premier ministre soudanais a dévoilé mercredi la liste de son gouvernement qui va avoir la lourde charge de s'atteler à la grave crise économique ayant provoqué des manifestations inédites demandant le départ du président Omar El-Béchir. Mohamed Taha Hela a été nommé le 23 février après la dissolution par le président du gouvernement au niveau fédéral et provincial, une mesure prise face au mouvement de contestation déclenché en décembre. Il s'agit du troisième gouvernement à être formé en moins de 2 ans, les deux derniers ayant été limogés pour avoir failli à résorber la crise économique. Les membres du gouvernement, qui comprend 18 ministres d'État, prêtent serment aujourd'hui. Le parti historique en Guinée-Bissau semblait bien placé pour former une coalition gouvernementale après l'annonce mercredi des résultats provisoires des élections législatives remportées par cette formation en confrontation depuis plus de 3 ans avec le président José Mario Vaz, avec 46% des voix et 47 sièges sur 102, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, manque de peu la majorité absolue selon les résultats annoncés par la Commission nationale des élections, mais il a fait alliance avec des formations totalisant 7 sièges, dont 5 pour l'APU, PDGB, Alliance populaire unifiée, Parti démocratique de Guinée-Bissau, de Nuno Gomes Nabiam. La formation de ce candidat à l'élection présidentielle de 2014, battu au second tour, peut ainsi faire basculer dans un sens ou dans l'autre la majorité absolue d'une assemblée très polarisée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ethiopian Airlines, la compagnie éthiopienne dont un Boeing 737 MAX 8 s'est écrasé dimanche près d'Addis Abeba, faisant 157 morts, a annoncé aujourd'hui avoir envoyé les boîtes noires à Paris où elles seront analysées. Le bureau d'enquête et d'analyse BEA, un organisme public français chargé des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, a précisé que les autorités éthiopiennes communiqueraient elles-mêmes sur les progrès de l'enquête. Mercredi, le président américain Donald Trump a fini par céder à la pression en annonçant que tous les Boeing 737 MAX allaient être cloués au sol aux États-Unis. Il se rallie ainsi au consensus international sur ce nouvel avion du constructeur américain. Les députés britanniques se prononcent aujourd'hui sur un report du Brexit, la première ministre Theresa May leur promettant qu'il sera court s'ils adoptent l'accord de retrait qu'elle a négocié avec l'Union européenne et qu'ils ont déjà retoqué deux fois. À 15 jours de la date théorique du divorce, le 29 mars, la motion gouvernementale sera débattue à la Chambre des communes, proposant un court report du Brexit jusqu'au 30 juin si les députés approuvent l'accord de retrait d'ici le 20 mars. Comment sortir de l'impasse et les jours de Madame May seraient-ils comptés à 10 Downing Street? Des questions que Jacques Aristide a posées à John Henley, il est grand reporter au journal anglais The Guardian.
Elle est certainement affaiblie, mais pour l'instant, c'était beaucoup trop tôt pour dire que ces jours sont comptés. Il y aura deux votes supplémentaires cette semaine, donc un pour savoir si les députés veulent oui ou non un no deal, donc un sorti sans accord, et ensuite, jeudi soir, il y aura de nouveau un vote sur une possible prolongation de la période de l'article 50. L'article 50, c'est les deux années de négociations qui permettent à un pays de sortir de l'Union européenne. On saura un petit peu plus à la fin de ces deux votes, mais pour l'instant, il y a plusieurs options qui restent ouvertes avant qu'on commence à parler de la fin de la carrière de Theresa May.
Mais d'après vous, quels sont les scénarios encore envisageables?
Je pense que la première possibilité, ce serait que Theresa May cherche à parler pour la première fois, plus ou moins, vraiment sérieusement avec l'opposition, avec le Parti travailliste et les autres partis d'opposition, sur un éventuel accord sur un Brexit à la norvégienne, comme on l'appelle, c'est-à-dire un Brexit qui laisserait la Grande-Bretagne beaucoup plus près de l'Union européenne que le Brexit envisagé par les Brexiteurs. Mais le problème avec cette approche, c'est que ça diviserait encore plus le Parti conservateur. Et un Parti conservateur divisé pourrait amener sans doute à de nouvelles élections qui pourraient à leur tour donc être gagnées par l'opposition. Donc ça, c'est une option compliquée pour Madame May à envisager. Également, ça c'est pareil, je pense, pour un deuxième référendum. Troisième option qui me semble plutôt possible, en fait, ou au moins plausible, ce serait en fait que Madame May revienne dans la Chambre des communes, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais elle pourrait tout à fait revenir avec ce même deal.
Quel est le sentiment général dans le pays? Que disent les Britanniques, le citoyen lambda?
Écoutez, le citoyen lambda, il en a tout simplement marre de tout ça. Il ne comprend pas pourquoi ça prend autant de temps. Le sentiment du public par rapport au Brexit a changé, mais pas énormément. Par contre, les entreprises, elles sont furieuses. Elles parlent d'irresponsabilité totale de la part du gouvernement, d'une incertitude qui rend leur business quasiment ingérable. Et plus vite ce processus de Brexit sera fini, plus contents ils seront.
Le journaliste britannique John Henley joint à Londres. La France a signé pour 2 milliards d'euros de contrats au Kenya où Emmanuel Macron est en visite depuis mercredi. La visite du chef de l'État français à Nairobi, la première d'un président français depuis l'indépendance du pays en 1963, est la dernière étape de la tournée d'Emmanuel Macron dans la Corne de l'Afrique après Djibouti et l'Éthiopie, deux pays qui, comme le Kenya, suscitent les convoitises des grandes puissances, au premier rang desquelles la Chine. Le gouvernement et l'opposition au Nicaragua ont annoncé mercredi la reprise de leur dialogue, suspendu depuis le week-end, les autorités ayant accepté de libérer un nombre indéterminé de prisonniers politiques. La plateforme d'opposition de l'Alliance civique pour la justice et la démocratie se rendra de nouveau aujourd'hui à la table des négociations avec l'assurance que son souhait de voir libérer un nombre notable de personnes détenues soit pris en compte, a indiqué un communiqué commun des deux parties diffusé par la présidence. Plus de 600 opposants sont toujours derrière les barreaux au Nicaragua. Et puis le gouvernement vénézuélien a annoncé le retour aux activités normales, privées et publiques, à partir d'aujourd'hui donc, après une semaine de suspension due à la gigantesque panne électrique dont la population et l'économie nationale continuent de payer les conséquences, faisant craindre une crise encore plus profonde. Mais officiellement, le courant a été rétabli à 100%, mais il reste encore interhabitant dans plusieurs États. Le prochain journal dans 50 minutes avec André Fantin.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.